Vous êtes sur RTL.
RTL Matin, Yves Calvi.
7h44, très bonne journée à vous tous qui écoutez RTL. Alba Ventura, vous recevez donc ce matin le secrétaire d'État auprès de la ministre de la Transition écologique et solidaire chargée des Transports, Jean-Baptiste Djebbari.
Bonjour Jean-Baptiste Djebbari.
Bonjour Alba Ventura.
Vous étiez hier dans les Vosges, puis à Orléans pour donner le top départ du plan de sauvetage des petites lignes de train. C'est un plan qui va se dérouler région par région. Ça commence dans le Grand Est et dans le centre Val-de-Loire. Jean-Baptiste Djebbari, est-ce que vous pouvez dire ce matin, clairement, combien de lignes vont être sauvées et combien de lignes vont fermer?
Ça va dépendre essentiellement du nombre de régions avec lesquelles nous allons réussir à signer ces accords, mais je veux dire que les lignes, un certain nombre de petites lignes sont déjà fermées. Je prends l'exemple de la ligne Épinal-Saint-Dié hier, qui a été construite après la Première Guerre mondiale et dont les rails datent toujours de 1927. Une ligne qui a été fermée fin 2018, qui réouvrira début 2022 et qui a fait l'objet de beaucoup d'études, de beaucoup d'analyses.
Il faut dire que le président s'était pas mal impliqué.
Oui, mais je crois que c'était nécessaire, effectivement, qu'à un moment
mais le président ne peut pas être sur toutes les petites
lignes.
C'est vrai. Vous savez que 60% de ce réseau de petites lignes est menacé. Il y a 2% de voyageurs. On se dit, ils n'ont pas de baguette magique, ils ne vont pas soit rouvrir, soit conserver toutes les petites lignes.
Il fallait rompre ce cercle vicieux qui consistait effectivement à ne pas entretenir ces lignes, à ce que la vétusté s'accroisse et finalement à ce que les passagers viennent moins et qu'on justifie en quelque sorte leur abandon. Donc nous avons rompu ce cercle vicieux, nous avons remis un peu de l'ordre dans la maison des petites lignes avec un réengagement de l'État sur les lignes les plus circulées, avec la capacité pour les régions de reprendre à leur compte en gestion les lignes les moins circulées, d'ailleurs d'expérimenter des choses nouvelles, du train plus léger, du train à hydrogène. Et puis il y a un certain nombre de petites lignes qui restent cofinancées par l'État et les régions. Et moi je me réjouis qu'on ait pu signer hier effectivement avec Grand Est et Centre Val-de-Loire les premières conventions qui donnent un avenir ou qui dessinent un avenir positif pour ces petites lignes.
Mais que deux régions pour l'instant? Ça veut dire que les autres régions ne jouent pas le jeu?
Non, ça veut dire que nous avons que ce sont les deux régions qui étaient les plus prêtes, avec lesquelles nous avons signé. Nous discutons avec l'ensemble des régions. Et moi je souhaite qu'évidemment la plupart des régions arrive à trouver le bon point d'équilibre avec nous de manière à ce que nous puissions signer plus d'accords, évidemment.
Qui va payer?
C'est partagé entre l'État, je le disais, l'État qui reprend les lignes les plus circulées, et puis les régions qui cofinancent les lignes avec l'État intermédiaire et qui reprennent, quand elles le souhaitent, à leur compte, les lignes dites capillaires, les lignes les d'intérêt local, comme on dit. Et donc c'est bien un cofinancement au sens général entre l'État et les régions.
D'accord. Vous parlez de train léger?
Oui, je parle de train léger parce que
c'est un nouveau projet.
En tout cas, ce sont des trains qui roulent dans d'autres pays européens. Nous avons sur nos lignes des voies qui sont dimensionnées en général pour accueillir des trains lourds. Les trains se sont beaucoup massifiés au fil du temps. Et sur des lignes qui sont peu circulées aujourd'hui, vous avez besoin de voies qui finalement supportent des poids moins lourds, qui donc coûtent moins cher à la régénération. Et vous pouvez faire rouler des trains qui coûtent moins cher à l'achat et coûtent moins cher en exploitation. C'est donc la filière du train léger que nous allons lancer avec des constructeurs ferroviaires qui y sont prêts, qui d'ailleurs parfois les vendent à l'étranger. Et donc je ne vois pas pourquoi nous n'en bénéficierions pas en France.
On est bien d'accord qu'il y a aussi des petites lignes qui vont fermer au détriment de couloirs de bus.
Non,
ça va exister.
Il y a parfois des souhaits d'acteurs locaux de préserver l'emprise ferroviaire, mais d'y retirer les rails pour faire rouler ce qu'on appelle les bus à haut niveau de service sur ces emprises dédiées, quand vraiment les trafics sont faibles et quand il n'y a pas d'alternative ni ferroviaire ni routière. Donc il y a des projets de territoires qui sont menés. Moi je pense que cette logique elle est ascendante. Elle vient des territoires et quand vous avez une coalition locale pour mener ce type de projet, alors il est tout à fait envisageable que l'État les accompagne.
Il y a une région qui pose particulièrement des problèmes parce qu'il y a énormément, de petites lignes à restaurer qui sont dans des états déplorables.
Non, il y a des régions effectivement qui ont des gros enjeux avec des gros volumes financiers. Je pense à Nouvelle-Aquitaine, je pense à Occitanie. Mais par exemple, la région Grand Est hier, le protocole que nous avons signé porte sur 1 milliard d'euros. Oui, c'est tout à fait considérable. 1 milliard d'euros sur environ 6,5 milliards d'euros potentiels pour ces pactes. Donc, les discussions avancent au fil de l'eau avec les différentes régions. Et oui, il y a des enjeux considérables dans certains endroits du territoire.
C'est le moyen que vous avez trouvé, Jean-Baptiste Djebbari, pour essayer de rafistoler les liens avec la France rurale et la France des Gilets jaunes qui se considèrent abandonné.
Vous savez, moi, le rapport Philizot qui a quelque part permis de faire le constat et de chiffrer précisément.
Rapport sur les petites lignes, du préfet Philizot.
Je l'avais demandé comme député au moment du pacte ferroviaire.
Personne n'a jamais vu ce rapport.
Si, il est public. Il est public depuis hier.
9000 km de réseau de petites lignes, 9 pages.
Oui, mais vous savez, ce qui compte, alors évidemment le rapport est important, mais ce qui compte, c'est le plan d'action. Moi, j'avais demandé, arrivé au ministère, que le préfet Philizot reparte en Tour de France, continue ses discussions avec les régions et que nous en soyons plus à un rapport, mais bien à un plan d'action. C'est ce que nous avons débuté aujourd'hui.
Jean-Baptiste Djebbari, les grèves contre les retraites ont coûté 1 milliard d'euros à la SNCF. Comment l'entreprise SNCF va récupérer ce milliard ?
Mais d'abord, ça a coûté effectivement en euros sonnant et trébuchant, ça coûte en image à la SNCF au moment où elle rentre en concurrence, notamment sur les réseaux TER. C'est quelque part aussi une petite encoche à la confiance que les Français font à la SNCF, puisque vous savez que nous avons repris 35 milliards de dettes. Donc oui, il y a des défis qui sont considérables.
Alors on va supprimer des postes,
supprimer le
transport de marchandises.
De postes. Alors c'est un bon sujet, le fret ferroviaire. Moi, je pense qu'il y a tout à fait un avenir, notamment dans sa dimension écologique pour le fret ferroviaire, mais pas comme il est géré actuellement. Et sur tous ces sujets, le fret ferroviaire, les petites lignes, l'externalisation, le dialogue social. J'ai des discussions de haut niveau avec Jean-Pierre Farandou et je crois qu'il a aussi des propositions à nous faire, non seulement pour tenir la trajectoire financière de la SNCF,
comme ça.
Je le rappelle, 35 milliards d'euros, et c'est pas rien en dette ce que l'État a repris. Dans les semaines qui viennent, nous discutons quasiment quotidiennement avec Jean-Pierre Farandou, donc je vous assure que ces discussions sont soutenues et sérieuses.
Où en sont les négociations sur les retraites d'ailleurs à la SNCF et à la RATP?
Il y a une journée de mobilisation hier, une journée de mobilisation nationale. Vous savez
la
plus faible, je crois d'ailleurs, depuis le 5 décembre. Nous avons proposé dans le projet de loi qui est discuté actuellement, péniblement discuté à l'Assemblée nationale, en dur les garanties pour les cheminots à la fois de la SNCF et de la RATP. Donc nous tenons l'engagement politique que j'ai pris devant les syndicats, évidemment.
Est-ce qu'il y aura un étalement des jours de grève pour justement les grévistes ou...
Non, il n'y a pas eu d'étalement des jours de grève. Il y a eu, au cas par cas, le traitement des urgences sociales. Vous aviez des gens, effectivement, qui étaient en difficulté. Et évidemment, les DRH de ces grandes entreprises publiques ont entendu l'appel de détresse de certains.
Jean-Baptiste Djebbari, sur le plan purement politique, on voit bien qu'en raison de l'obstruction des dizaines de milliers d'amendements, l'examen du texte n'avance pas. Richard Ferrand, le président de l'Assemblée, a dit qu'à ce rythme-là, il faudrait 150 jours en siégeant du lundi au dimanche soir. Jean-Luc Mélenchon dit « c'est à nous de tenir la tranchée, c'est la guerre ». C'est la guerre au Parlement.
Mais je note que Jean-Luc Mélenchon, après avoir hurlé au régime autoritaire, fait la démonstration par l'absurde du caractère démocratique, très démocratique de notre Assemblée. Il pratique une forme de détournement du droit d'amendement. Il impossibilise, ce faisant, le débat politique. Et moi, je trouve dommage.
Et donc, 49-3, vous allez passer avec cette arme
d'abord pointons les responsabilités. D'abord, j'ai regardé hier pendant deux heures le débat parlementaire à l'Assemblée nationale, c'est catastrophique. Disons-le, c'est rappel au règlement sur rappel au règlement, c'est invective personnelle. Ce n'est pas au niveau d'un débat parlementaire que doivent mener des députés de la nation.
Qu'est-ce que vous pouvez faire ?
Et donc, je dis que la majorité présidentielle est extrêmement mobilisée. Il y avait plus de 200 députés hier dans l'hémicycle, peut-être 150 de la majorité. Et que les députés de la majorité ne se situent pas dans cette hypothèse constitutionnelle, là, pour l'instant.
Les députés, mais Olivier Véran, le nouveau ministre de la Santé, ne l'a pas exclu et ça devient une option, visiblement, du côté du gouvernement.
Eh bien, ce n'est pas à exclure.
Évidemment, 49-3, je rappelle juste que c'est une manière de faire passer un texte sans vote.
C'est une manière, effectivement, quand...
Un moyen constitutionnel.
Absolument, c'est un outil à la disposition du gouvernement. Ça a été voulu par le général de Gaulle, justement, pour éviter ce genre de situation.
C'est nécessaire pour vous, c'est utile.
Une majorité ou un parlement qui est dans l'impossibilité de travailler. Donc, moi, je me situe dans la dynamique qui est celle de la majorité présidentielle, d'aller jusqu'au bout de ce qu'il est possible de faire dans le débat parlementaire. Mais je le dis, la détermination à voter ce texte du gouvernement, elle est totale. Et donc le texte sera voté. Je me situe pour l'instant dans la dynamique positive d'un débat retrouvé, je l'espère, dans les jours qui viennent à l'Assemblée nationale.
Mais donc vous verrez en temps voulu si cette option est
comme
possible. Dans les suites de l'affaire Griveaux, on a assisté, Jean-Baptiste Djebbari, à un échange à distance peu glorieux entre le ministre de l'Intérieur, Christophe Castaner, et le patron du PS, Olivier Faure. Le ministre n'a pas apprécié, dit-il, les leçons de morale du socialiste qu'il connaît bien, explique-t-il, pour l'avoir accompagné dans ses divorces et ses séparations. On attend autre chose, non, d'un ministre de l'Intérieur ?
Non, mais je note qu'Olivier Faure... Alors d'abord, Christophe Castaner a, je crois, regretté ses propos s'ils ont pu toucher Olivier Faure. Mais je me rappelle qu'il y a encore un an, Olivier Faure tenait des propos peu amènes à l'égard de Christophe Castaner, qu'il y a quelques jours, il a référé à Jean-Yves Le Drian et Olivier Dussopt comme un club d'alcooliques anonymes.
Et donc, c'est donc, un jeu de remettre des sous dans la machine.
Non, mais je remarque quand même qu'il s'offusque très rapidement quand il est concerné par des propos et qu'il a quelque peu de mal à modérer les siens. Donc, ainsi va la vie politique. Moi, je trouve que c'est effectivement...
La vie publique, la vie politique mérite mieux, non, que crois, de se répondre comme ça, comme dans une cour de
d'abord,
je
pense que quand, c'est évidemment incomparable avec ce qui s'est passé dans l'affaire Griveaux, puisque là, on a vraiment assisté quelque part à la destruction de l'intime pour des motifs politiciens, et c'est évidemment très dangereux pour la démocratie. Mais effectivement, je pense que la vie politique doit être de bonne tenue.
Une toute petite dernière question, ça concerne l'aviation. Cette année 2019 aura vu deux compagnies aériennes faire faillite, XL Airways et Aigle Azur. Où en est le reclassement des salariés? Plus de 1500 salariés pour les deux compagnies, je crois.
Alors, il y a une cellule de reclassement effectivement qui fait œuvre. Il y a des phénomènes d'aspiration dans d'autres compagnies aériennes, puisque le trafic aérien reste très positif, très croissant. Et donc, il y a un certain nombre de pilotes, de personnels navigants commerciaux qui ont retrouvé du travail chez EasyJet, chez Air France. Ça met un petit peu de temps à se résorber, mais il y a aujourd'hui des passerelles qui sont quand même facilitées et une dynamique de l'emploi dans le secteur aérien.
Mais combien de personnes sont encore...
Pas les chiffres là exactement en tête, mais je pourrais revenir à votre micro, vous en faire le détail précis si vous le souhaitez.
Merci beaucoup Jean-Baptiste.